Ceci étant, que je suis toujours un écologiste mauvaisien, quand il a donné comme sujet questionner le concept de Méditerranée, ça m'a posé des problèmes et j'ai travaillé, du coup, j'ai retravaillé ça comme je fais toujours. Et je me suis dit que si j'avais posé, j'aurais jamais posé cette question-là, je me serais jamais posé cette question-là, ce qui est obligé, ça m'a obligé avant de me relire, et d'essayer de donner une réponse précise. Alors la réponse, je te la donne tout de suite. Finalement, à la question posée, questionner le concept de Méditerranée, je répondrai facilement, c'est un concept par défaut. C'est un concept par défaut, je vais essayer de c'est un concept par défaut, mais je vais le détailler. Mais ça n'en est pas moins un formidable terrain d'expérimentation. Quand on a lancé les projets sur la route de la Méditerranée, c'est-à-dire en 90-91, j'avais répondu au maître d'œuvre qui a ensuite fabriqué cette maison, qui me demandait si j'avais besoin de paillasses. Puisque c'est les paillasses, j'ai dit oui, non, moi j'ai pas de paillasses, j'ai la Méditerranée. Et en fait, c'est relativement important de réfléchir dessus parce que la rencontre que vous allez organiser là, à Alexandrie impose, je crois, ce que j'avais déjà dit plusieurs fois à Thierry, et ce que j'ai essayé de faire sous l'influence de Thierry depuis 5 ans, c'est-à-dire impose de faire des synthèses temporaires, si tu veux. Et au fond, aujourd'hui, j'ai essayé pour moi de faire ma synthèse temporaire au 12 juillet 2006. Et ça vaut ce que ça vaut comme synthèse temporaire, mais c'est au fond une interrogation que j'essaie de construire en... Comme je suis là aussi, là, par contre, un historien indécrottable, ça impose d'y répondre en trois temps. Premier temps, c'est un objet complexe. Deuxième temps, c'est un concept mou. Et troisième temps, c'est un superbe terrain. Donc, c'est ce que je voudrais essayer de voir avec vous, c'est comment on fabrique, de me rappeler comment on fabrique ou comment on a fabriqué cet objet complexe. En sachant que, bon, moi je ne suis pas tombé dans la Méditerranée quand j'étais petit, même si je suis né au bord, comme ça s'entend, mais que la Méditerranée finalement accompagne ma réflexion historienne depuis 30 ans. Ça fait longtemps, 30 ans. Et au fond, je tourne en rond autour, mais pas tellement physiquement, parce que je ne connais pas toute la Méditerranée, loin de là, contrairement à beaucoup de mes collègues. Mais je tourne autour de cet objet-là que j'essaie de définir. Au fond, tout ce qu'on essaie de faire depuis longtemps, c'est au fond de définir cet objet et de le rendre, et de le transformer, de transformer cette impression que nous avons, cette notion de Méditerranée, en objet, et en objet scientifique. Donc, premier point, et c'est là-dessus que je démarrerai, je dirais que c'est d'abord un objet complexe. C'est un objet complexe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'objet en question ne nous est pas donné comme un concept. Un concept, comme souvent la définition de... La définition la plus classique, c'est un mot qui définit une matière. Donc, c'est pas donné comme un concept, c'est un concept au sens où un concept, ça recueille, ça accueille, ça réunit toute une série de données, c'est tout. Mais c'est même pas donné comme un objet. Il faut le construire d'abord comme objet. Parce que tout le monde parle de plus ou moins de Méditerranée, d'abord pas depuis toujours. On parle de plus ou moins, mais ça il faut renvoyer à représentation de la Méditerranée. Mais il faut encore s'entendre à ce qu'on met derrière le mot. Alors, quand tu m'as posé cette question, je me suis dit que moi j'avais très peu employé le terme de concept Méditerranée. Je croyais que je n'avais jamais employé. En fait, c'est pas vrai. Je l'ai employé à plusieurs reprises. Et j'ai vérifié, parce que le meilleur résumé de ce qu'on a pu faire comme recherche, c'est dans le dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés de Lévy et de Lussault, où il y a une entrée Méditerranée qui est faite par Rémi Gnafou, et qui résume à la perfection en fait tout ce qu'on a fait. En fait, il s'appuie sur un des textes que j'avais fait pour Encyclopédie Universaliste qui s'appelle Le Monde au Présent, la Méditerranée dans le Monde au Présent. Et il résume ça, Gnafou résume ça de façon remarquable, je trouve que c'est très bien fait. Et il rappelle bien comment on a construit petit à petit, entre guillemets, le concept de Méditerranée. Et donc il fait un point à partir de l'état des lieux qu'on avait, en 94-95, c'est-à-dire il y a 10 ans maintenant. Donc ce qu'on a essayé de faire pour montrer cet objet Méditerranée, c'est d'abord de mettre en évidence un certain nombre de caractères. De caractère de la Méditerranée depuis l'apparition du mot comme une entité, et l'apparition du mot comme une entité, c'est relativement facile à mesurer, c'est 1872, et c'est le littraire 1872 qui est le premier dictionnaire à clairement à clairement appliquer à fabriquer, à transformer, à appliquer cette désignation géographique qui apparaissait depuis le XVIIIe siècle sur les cartes, sous forme d'une entité géographique. Alors évidemment pour un historien qui travaille, qui a une formation classique d'historien et qui en plus travaille sur l'Égypte, sur Alexandrie et sur le monde arabe, la Méditerranée s'est imposée pour moi depuis 30 ans comme une compagne obligatoire, parce qu'en réalité quand tu travailles déjà, quand tu as une formation je dirais classique, quand tu travailles sur Athènes, sur l'Empire romain, sur l'Empire grec et sur l'hellénisme, tu touches obligatoirement la désignation méditerranéenne. Et ne serait-ce que par l'histoire des religions ou l'histoire des sociétés. Alors, ce qu'on a essayé de faire d'abord dans les années 80, c'était de comprendre et de démonter, de comprendre la représentation, cette désignation qui apparaît en 1872, de comprendre comment elle est apparue et comment elle s'est organisée. C'est un travail qui a été mené en parallèle, en l'occurrence sous ma direction et sous celle de Gérard Chassagnaré, entre 1985 et 1995, où on a lancé les travaux en particulier de Martine Chalvet sur la forêt en Méditerranée, qui est sortie de là, en fait, le travail est sorti de cette interrogation, d'un côté de Martine Chalvet, qui a fait son mémoire de maîtrise, son mémoire de DEA, sur le mot « Europe ». Et c'est pour montrer comment on avait travaillé. Et en même temps, d'Anne Ruel, puisque j'ai travaillé beaucoup avec elle, sur le mot « Méditerranée » en parallèle. Donc, au départ, nous avons essayé de nous interroger sur l'histoire du mot, et c'était en même temps une réaction, et je vais y revenir plus en détail tout à l'heure, une réaction contre la réification des années 80. La réification des années 80, c'est la méditerranéité comme maladie chez moi, ou le méditerranéite, et qui vient d'un brodel mal lu. La brodel, c'est un personnage complexe encombrant, il parle de la Méditerranée, un personnage complexe, encombrant et hors série. C'est du brodel mal lu, maillé plutôt mal avec Henri Pirenne. Pirenne, c'est une mère familiale. Le tout hybridé avec l'approche de Lacoste, d'Yves Lacoste sur les Méditerranées, je vais y revenir tout à l'heure, les Méditerranées du monde. Et le tout assassiné par Dominique Fernandez dans la mer Méditerranée. Tout ça, donc, au départ, c'était au fond l'idée comme toujours, ou comme beaucoup d'intellectuels, de réagir par réaction contre une irritation, essayer de comprendre pourquoi cette irritation et de rendre intelligible cette analyse. Donc, pourquoi ça m'irritait, pourquoi ça marchait pas? On sentait que ça marchait pas, on sentait que Lacoste ça marchait pas, on sentait que Fernandez ça marchait pas, et on sentait, d'autant plus que des géographes ont très, très violemment marqué, Robert Ferras, ou Bernard Kaiser, dans les années 80 aussi, ont critiqué très brutalement et Lacoste et Fernandez et tout, en disant qu'en fait c'est un mythe, c'est une fiction. Et on sentait bien que ni Ferras, ni Kaiser, ni Fernandez, ni Lacoste n'avaient raison. Donc quelque part, il fallait préciser cet objet-là. Donc on a multiplié les axes d'analyse et les angles d'analyse pour essayer de montrer toute une série de choses. Premièrement, la Méditerranée apparaît comme un nom propre, et là, c'est les années 1820, 1830, jusqu'à 1870. Deuxièmement, elle construit autour de ce nom propre un discours qui s'organise, qui culmine en 1870 avec le Littré, mais aussi avec les dictionnaires universels de ces 19e siècle. Ce discours se transforme à ce moment-là en idéologie, l'idéologie méditerranéenne que l'on voit, que l'on poursuit aussi, que j'ai essayé de poursuivre un peu au départ, c'était le projet de thèse de plusieurs de mes étudiants, mais en pratique, ça a glissé vers autre chose. Et je pense que tous les travaux sur l'Algérie, je les avais poussés au départ, à Aix-en-Julienne peut-être, je les avais poussés un peu au départ, ces travaux sur l'Algérie au 19e, en posant aux étudiants, aux doctorants qui travaillaient sur l'Algérie, des questions autour de justement cette conception de la Méditerranée, du monde et de l'idéologie qu'il y avait autour. Bon, on n'avait pas encore fait l'Algérie noire, mais en fait, on était parti sur une Algérie blanche, et c'est aussi un peu le... Je perds la tête. Enfin, je l'ai perdu il y a longtemps, mais. Avec qui tu travailles, ouais.
Que donc Didier ?
Avec Didier, oui. En grande partie avec Didier Guignard, c'était le sujet que j'avais donné à Didier Guignard quand j'avais demandé de travailler sur l'Algérie blanche et au fond sur Afrique du Sud et Algérie. L'objectif était simple, comparer l'Afrique du Sud et l'Algérie. En fait, ça n'a pas dû donner ça, parce qu'il a débouché sur un travail sur, tout simplement, les malversations financières et politiques en Algérie coloniale. Donc en pratique, ce qui nous intéressait, c'était d'essayer de comprendre cette idéologie, cette construction idéologique, d'autant plus qu'à la même époque, c'est-à-dire 1920-1930, on voyait surgir une construction idéologique nouvelle, elle venue d'Italie, et reprise par Mussolini, puis intellectualisée par Valéry en France, et transformée en objet physique à la Fondation méditerranéenne de Valéry à Nice, et en l'occurrence, enfin, le CUM, le Centre universitaire méditerranéen de Valéry à Nice, 1934, donc essayer de comprendre à quel moment cette idéologie se transformait en véritable idéologie méditerranéenne, qui était aussi une idéologie politique, et cette idéologie politique devenant celle, j'y reviendrai en deux minutes, celle de la latinité, de tout ce qu'on veut, et finalement de la méditerranéité. Alors le concept là-dedans, il apparaît à ce moment-là, me semblait-il, jusqu'à ces dernières années, il apparaît à ce moment-là quand... L'idéologie, je dirais en quelque sorte, se fixe, créant un certain nombre de notions. Une idéologie qui se fixe lentement crée un certain nombre de notions fixes qui, elles, deviennent des concepts parce qu'ils définissent de façon peu claire quelque chose qui est un élément de notre culture ou de notre société. La Méditerranée, à ce moment-là, devient effectivement, dans les années 30, un concept, me semble-t-il. Mais c'est un concept, je vais y venir, nous. Alors ce premier travail, qui est un travail qui a débouché, vous le savez mieux que moi, sur le travail des représentations que Thierry a dirigé, et il a débouché, et il a été conduit en même temps, mais je vais essayer de renouer tout ça dans deux minutes, il a été conduit en même temps que nous conduisions, que je conduisais personnellement un travail de réflexion sur l'histoire, sur la partie chronologique des événements. C'est-à-dire renouer le fil chronologique après avoir renoué le fil, je dirais, idéologique. Et effectivement, de 1994 à 2003, puisque je l'ai achevé avec l'échelle du monde dans un premier temps, et même 2005, que je l'ai repris à Gênes deux fois l'année dernière, j'ai essayé de comprendre ce que j'appelais les figures successives de cette représentation. Parce qu'une représentation, elle a des figures, elle a des formes, elle prend forme. Donc ce qui m'a intéressé, une fois compris, en gros, croyant avoir compris, en gros, la mécanique de la représentation, je me suis dit, il faut essayer de comprendre maintenant les formes prises par cette représentation. Ce sont donc les figures successives de cette représentation méditerranéenne qui m'ont intéressé et qui nous ont amené, en fait, et on va y revenir, on va rapprocher petit à petit de nos sujets, je crois, j'espère que dans le 3, on sera exactement dans le sujet. Donc ce sont ces figures successives qui m'ont intéressé pour essayer de comprendre la prégnance de l'idéologie ou de l'image de la notion méditerranéenne dans les sociétés. Et en fait ces figures, je crois que c'est assez facile en fait, finalement assez facile à analyser ce que Clarence de Thierry j'ai appelé l'échelle du monde, mais au fond c'est des figures successives de la mondialisation qui sont ni plus ni moins que des figures des empires successifs. Des impérialismes successifs ou des empires successifs, pour éviter des faux débats de concepts qui n'en sont pas non plus. Bon, il s'agit là simplement de figures d'empires successifs, qu'il s'agisse de l'Empire romain, de l'Empire... Et j'ai été ravi du dernier livre de Paul Veyne, qui est l'Empire gréco-romain, justement, puisque c'est le premier livre, finalement, où à ma connaissance, on essaie de faire la synthèse de la période hellénique jusqu'à la période post-romaine. Qu'il avait testé d'ailleurs ici même dans une conférence qu'on retrouve dans le bouquin sur l'Empire gréco-romain. Donc en pratique, j'ai essayé de comprendre ces figures successives qui nous conduit, hein, qui est une figure dont l'élément clé finalement, et c'est à ça que je suis arrivé, qui me semblait intéressant et qui me permet de fil conducteur pour la suite, dont l'élément clé c'est au fond les limites. C'est une exploration, ces figures successives, c'est des explorations de limites d'image, de figures. Chaque fois, elles se remplacent l'une de l'autre, de façon continue, mais en réalité, par des glissements successifs très difficiles à cerner. Ce qui fait, tout ça fait que finalement, on aboutit à un objet, la Méditerranée, qui est un objet de connaissance, et que plus on travaille cet objet de connaissance, plus il devient compliqué, plus il devient multiple. Et c'est là qu'il devient vraiment intéressant. Donc je dirais qu'aujourd'hui, en 2006, je pense que d'abord la Méditerranée, c'est un objet multidimensionnel. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui, pour nous, avant de dire que c'est un concept, qu'on doit dire d'abord que c'est un objet multidimensionnel, ou polygone, un objet comme Foucault dit quelquefois polygonal,
c'est-à-dire un polygone étoilé de
Cartesien. Oui. On peut donner plein de trucs après. Et donc cet objet, je crois qu'il faut partir de là, ça serait le point 1 de toute de l'acquisition, si je fonctionne par accumulation. Le point 1, c'est que de dire c'est un objet multidimensionnel complexe. Mais 2, est-ce que pour autant c'est un concept? Ça, je crois pas. Alors, ça, c'est mon second point de réflexion. C'est un concept, je l'ai dit, faiblard, ou c'est un concept mou, ou c'est un concept par défaut. Et là, c'est encore le second point de réflexion sur lequel on est aujourd'hui. Je suis aujourd'hui. Alors, je précise, avant de rentrer dans ce détail du concept par défaut, je précise que je crois que le détour par l'histoire des représentations, non seulement n'est pas inutile, mais il était nécessaire. Il était absolument nécessaire, parce qu'il nous a permis de prendre la mesure et de prendre une certaine distance avec, justement, la construction de l'objet. Et justement, peut-être de mieux comprendre l'idéologie iranienne, telle qu'on l'a démontée, et telle qu'on l'a très souvent aussi condamnée. Je vais y venir. Et je pense que c'est utile parce que du coup ça permet de traiter la Méditerranée, si vous voulez, en objet, donc de la distinguer un peu des autres, de distinguer la Méditerranée, par exemple, de la Méditerranée méditerranéenne, de la Méditerranée, de la Méditerranée des Caraïbes ou autre. Alors, est-ce que pour autant c'est un concept? Une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est un concept si on prend le mot concept? Alors, j'ai fait ce que je fais d'habitude dans ces cas-là, je suis allé prendre mes dictionnaires de philosophie de chez moi, le nouveau dictionnaire des philosophies européennes dont je reparlerai tout à l'heure, qui est un petit chef-d'œuvre, ou le Lévy, qui est quand même sur ce plan un vrai dictionnaire de philosophie de très très bon niveau, et on a un agrégé de philo ici. Donc, si tu reprends le concept, tu te rends compte de quoi? Tu te dis, au fond, c'est pas un concept. Parce qu'un concept, ça devrait être présente deux caractères fondamentaux. Monsieur le philosophe, que je suis allé vérifier hier soir dans la critique de la raison pure. Mais c'était 11h du soir et j'étais un peu crevé. La chaleur, c'est pas bon pour moi. Donc en l'occurrence, deux caractéristiques qui sont, un, je cite Kant, la médiation, et deux, l'universalité. Alors la médiation, j'ai eu du mal à comprendre ce que vous avez dit, j'espère que Jean-Luc me l'expliquera. J'étais vraiment trop vadillé, je me suis endormi sur ces pages de la critique de la raison pure où il expliquait ce que c'était la médiation, j'en avais ras-le-bol. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, comme praticien de l'histoire, je dirais de l'application des concepts, un concept, c'est un concept si c'est transférable. Si c'est transférable à d'autres données. Or, je ne suis pas sûr que la Méditerranée soit un concept transférable. La notion de transférabilité, qui est une notion fondamentale pour un concept. C'est-à-dire, un concept, c'est transférable si tu peux l'utiliser dans d'autres données, dans d'autres notions. C'est pas vraiment transférable. Et en fait, la Méditerranée, sur ce plan, comme concept, elle pose les problèmes exacts que posent toutes les définitions géographiques, toutes les définitions même spatiales. C'est pour ça que je me sers tellement de Lévi-Husseau. Et que, d'ailleurs, en désespoir de cause, hier à 11h du soir, j'ai essayé de téléphoner à Jacques Lévy pour qu'il me sorte de là, mais il n'était pas là. Il doit être en vacances, le seul. Donc, je lui ai laissé un message et vous aurez la réponse quand il voudra bien me la donner. Donc, en l'occurrence, la Méditerranée, elle pose les mêmes problèmes, que les mêmes difficultés que tous les espaces, ce qui va me permettre de faire le lien avec Lacoste. Que tous les espaces, c'est qu'en pratique. En pratique, ici, on a une notion, pour résumer, on a une notion, la Méditerranée, c'est une notion qui rend compte de la réification d'une idéologie à un moment donné. Mais ça, on ne peut pas le prendre pour un concept. Si on le prend pour un concept, on est foutu. Je vais y venir. Je me suis endormi quand je suis arrivé à Newton. Parce qu'en fait, de Kant, ça passait à Newton, de Newton, c'est trop compliqué pour moi, là, je n'ai rien compris. Donc on peut l'appliquer simple, si vous voulez, cette notion de concept comme réification d'une idéologie, simplement, donc c'est pour ça que je dis que c'est mou, c'est pas universel, c'est pas transférable facilement. Mais c'est applicable quand même, c'est pour ça que c'est mou, c'est applicable au moins pour comprendre deux dérives du concept méditerranéen. La première dérive, c'est la méditerranéité, ou la méditerranéite, et la deuxième dérive, c'est la romanité ou la latinité. Là, on a réellement une dérive intéressante, parce que effectivement, ces choses-là, ces éléments-là, ces discours-là ne sont guère que des discours qui sont des réifications d'images et de notions, sans plus, donc d'idéologie, mais c'est pas plus. Alors si vous voulez, si je conclue sur ce premier point de l'analyse du concept mou, je dirais c'est un concept mou, ça veut dire que c'est simplement un outil ici, le concept. Un premier élément pour traduire, pour travailler l'objet qui est la Méditerranée. Mais ça ne veut pas beaucoup plus. Ceci dit, on peut aller beaucoup plus loin, parce que si c'était clos comme ça, ça serait trop beau. Ceci dit, le plus intéressant reste à se jouer après, c'est-à-dire qu'à partir de là, je peux effectivement, si je suis parti que c'est un objet, et un objet qui n'est qu'un axe, qui devient une figure conceptuelle, historienne, historique à un moment donné, un objet historique qui est un objet à un moment donné, à ce moment-là, ça devient intéressant et je peux commencer. Je peux commencer en disant que c'est un objet qui impose, qui permet, et c'est ça qui m'intéresse, ce sera ma troisième élément de réflexion, c'est un objet qui permet de mettre en œuvre la recherche de tout l'appareil conceptuel dont on peut disposer. Et c'est là que les dictionnaires de Lévi-Lussault, les dictionnaires des philosophies européennes, trop cher, il est trop cher pour ce que c'est, je le signale, parce que moi je l'ai acheté comme ça. Parce que Jacques Lévy m'a dit qu'il fallait absolument que je l'aie chez moi, donc je l'ai acheté, il vaut quasiment 100 euros et ça vaut pas le déplacement, je le signale. Le bon vieux Lalande est suffisant et il se trouve d'occasion partout. Donc en l'occurrence, à partir de là, on se rend compte qu'on a une matière sur laquelle on va pouvoir s'exercer. Et là, c'est là que j'en suis le 12 juillet 2006. Et je pense que le problème, si on va fouiller dans la boîte à outils, le problème, c'est l'analogie. C'est-à-dire, on a construit un concept et à partir de là, on travaille par analogie. Alors, une analogie, vous le savez comme moi, c'est la construction d'éléments apparemment comparables que l'on construit sous une forme soit métaphorique, ça c'est l'image littéraire, soit sous une forme conceptuelle et ça devient une analogie. Je pense que si on l'applique à Lacoste, on se rend compte que les trois Méditerranées de Lacoste sont en fait un fonctionnement de dérive analogique, de simple dérive analogique. Et d'ailleurs, si j'avais buté dessus, je me suis engueulé d'ailleurs, je me souviens avant que la maison méditerranéenne n'existe, on avait invité Lacoste à chez les Jésuites à côté, je m'étais engueulé avec lui violemment, et c'est parce que j'étais encore jeune. Donc en l'occurrence, je lui ai fait mes excuses beaucoup plus tard, mais il n'a pas compris. Donc il est encore temps de lui faire comprendre, j'espère lui faire comprendre un jour. Donc en l'occurrence, ce que j'y avais reproché, c'est qu'en l'occurrence, il avait construit une image qui était les Méditerranées, enfin, qui était une notion géographique, mais qui n'était pas transférable terme à terme dans les trois des Méditerranées. Et au fond, la Méditerranée, ce qui je lui avais dit à l'époque, mais je m'étais mal exprimé, et surtout je crois que je ne savais pas ce que je disais. Je lui avais dit à l'époque que ce qui était intéressant dans la Méditerranée américaine, c'était la Floride. Et maintenant je dis, de 12 juillet 2006, je dis, j'avais raison, évidemment, c'est ça qui est intéressant, mais je ne savais pas pourquoi. Et c'est à ça que je vais répondre. C'est évidemment la Floride qui est intéressante dans la Méditerranée américaine, si on considère que c'est... Pourquoi ? Parce que la Méditerranée, comme notion telle que nous l'avons construite depuis 15 ans, c'est un territoire, c'est un espace, c'est pas une mer. Et je dirais que ce qui est intéressant, c'est justement pas la mer, c'est la terre. Et c'est la façon dont l'espace ou le territoire se construit. Et donc les limites de l'analogie, si vous voulez, la limite de l'analogie, elle est à mon avis atteinte déjà avec Lacoste, ou elle serait atteinte, là ça devient évident, si vous considériez que quand vous avez dit Club Med, vous avez dit tout ce qu'il y a à dire sur la Méditerranée. Or, si je vous dis Club Med, vous saurez bien qu'on n'a pas tout dit. Même si les bronzés 3, c'est pas génial, ça a été déjà épuisé avant. Enfin, les bronzés 1 avaient déjà épuisé l'essentiel. Donc, en l'occurrence, on sait qu'on a atteint les limites de l'analogie, que le Club Med, c'est pas un concept, enfin, ou plutôt, c'est ce que les publicitaires appellent un concept, c'est-à-dire un objet qui fait vendre un autre objet. Mais en l'occurrence, la Méditerranée, pour un historien, pour un géographe, pour les sciences humaines en général, ou pour un géohistorien, ce que je préfère employer aujourd'hui, je dirais c'est simplement un territoire. C'est un territoire ou un espace. Et que sur ce territoire ou cet espace, c'est passionnant parce qu'on peut mobiliser plein de concepts et utilisés par les sociologues, les géographes, les philosophes pour traiter les espaces et les territoires. Et j'en prends deux exemples qui sont des sous-résultats de l'année 2005-2006, pour moi. J'ai dit qu'hier, j'en ai profité pour faire des synthèses personnelles. Donc ces sous-résultats, j'en prends deux exemples de mobilisation. L'une, je la prends chez Foucault. Je te l'ai déjà sorti, je crois. J'étais tout excité quand je l'ai trouvé, donc je t'avais téléphoné, me semble-t-il. Je la prends, la première, je la prends chez Foucault, dans une conférence faite à Tunis, c'est pas un hasard, en 1969 par Michel Foucault, où il parle d'un objet qui est fondamental et qu'il appelle les hétérotopes. Alors les hétérotopes, tu aurais pu mettre la Méditerranée comme hétérotope, au lieu de sujet comme sujet. Le succès fou, Alexandrie. Alors c'est quoi un hétérotope? C'est extrêmement passionnant et c'est un outil extraordinaire pour un historien. Et pour un historien de la Méditerranée ou aussi un anthropologue de la Méditerranée, c'est passionnant. Un hétérotope, c'est quoi? C'est un lieu sans limite et un lieu qui se déplace, qui est hors de tout temps et hors de tout lieu. C'est ça un hétérotope. Par exemple, pour le faire comprendre plus facilement, vous allez le voir tout de suite, l'hétérotope type, l'idéal type de l'hétérotope, c'est le lit d'enfant sur lequel vous étiez quand vous aviez 5-6 ans, et que vous transformiez en bateau, ou vous vous transformiez en maison, ou vous transformiez en univers. Un hétérotope, c'est un univers hors du monde. Et donc, il donne deux ou trois exemples d'hétérotopes, celui du bateau d'enfant, du lit d'enfant, dans la chambre des parents. Je vois mal Foucault dans le lit de ses parents, mais enfin, ça devait être pareil. Et le deuxième exemple qu'il donne, c'est celui du bateau tout court, pour, que moi je vis comme tout le monde le sait, comme vieil obsédé des bateaux. Le bateau, c'est l'hétérotope idéal, c'est-à-dire le nid. Et ça m'a amené à lire Bachelard, c'est pour ça que je lis Bachelard en ce moment. Donc ça m'a amené obligatoirement à lire Bachelard, parce que Bachelard, dans La poétique de l'espace, elle explique très très bien, où il montre très bien comment on construit le nid et comment on construit un espace qui est un espace au fond, pour mixer Bachelard et Foucault, un espace hétérotopique. J'ai été très frappé par le fait qu'en 2006, tout début de l'année, enfin il y a deux mois, ici même dans la salle Paul Aperffévrier, Marcel Rocaiolo, qui a fait une conférence à l'invitation de Jean-Luc Arnaud, conférence à laquelle je crois que j'étais seul avec Bernard Morel à participer ou à assister. Et Marcel, qui a délivré encore plus que je le fais là en ce moment, a fini par délirer en me délirant sur les lieux aliénés, autres, les lieux aliénés et la synchronie de ces lieux, ce qu'il a appelé la synchronie. Alors j'étais fou de rage, parce que je venais d'inventer les synchrones, et j'avais téléphoné d'ailleurs à toi-même pour te dire que j'avais inventé les synchrones, et j'ai pris Rocaiolo, je l'ai amené chez moi, fou de rage, je lui ai dit, je vais te prouver que je l'ai écrit avant toi. Et j'ai un carnet chez moi où il y a marqué les synchrones, donc il a vérifié, depuis la visite de Renava, il dirait que c'est moi qui l'ai inventé. Il dit, je prenais les... Donc la notion d'hétérotope chez Foucault, reprise par Rocaiolo et moi-même cette année sous la forme de synchrones, puisque depuis on en a rediscuté plusieurs fois, qui sont des lieux qui font coordonner un espace et un temps. Et c'est là qu'on touche à la mémoire. Ces lieux synchrones, qui sont des lieux extraordinaires, puisqu'ils voient se coordonner les espaces et les temps, vous pouvez l'appliquer pour comprendre, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est dans des concepts, des applications d'outils. Vous pouvez, par exemple, moi je l'ai appliqué immédiatement et a posteriori de 20 ans sur Alexandrie, par exemple. Alexandrie, c'est extraordinairement intéressant, c'est un hétérotope et c'est un synchrone. Quand les alexandrins des années 1920 disent « nous sommes le cœur du monde, le nombril du monde », ce qui est souvent le cas en Méditerranée, ça devrait marcher à Saint-Tropez d'ailleurs aussi, vous vous dites c'est quoi? Ils se sont inventés une ville, un monde à part, complètement à part, hors du monde méditerranéen, de la colonisation, de la mondialisation, et de la domination du monde par l'empire cotonnier anglais, ce qui était le cas de l'Égypte. Mais Alexandrie, hors d'Égypte, à ce moment-là, on le dit en général, Alexandrie ad Egyptum. Alexandrie, c'est donc un hétérotope, c'est typique. Et deuxièmement, c'est un synchrone. Pourquoi? Parce que cet hétérotope, il permet aussi de faire fonctionner toute une série de populations qui se retrouvent de tous les bords de Méditerranée. Et ça rend très bien compte, je crois aussi, de toute une série de caractéristiques des villes coloniales que j'avais appelées il y a 20 ans les nations, les états-nations, et ces états, ces espèces de villes-états, de cités-états, que j'avais repris d'ailleurs, ça venait effectivement de cités à la dérive. Donc ces cités-états, donc Beyrouth, Alger et autres, sont évidemment des synchrones, c'est-à-dire des moments, des lieux qui permettent de synchroniser un mécanisme mondial, la mondialisation en l'occurrence économique et l'impérialisme, avec toute une série. Donc, vous voyez, mobilisation des outils conceptuels, oui, si on va les chercher et les appliquer, j'ai pas fini, mais presque. si on va aller chercher les appliqués. Bon, je me suis amusé hier soir à voir si on ne pouvait pas l'utiliser et si je n'avais pas utilisé d'autres outils. Et oui, on a utilisé d'autres outils. Et c'est facile. Je l'ai utilisé à Barcelone dans un texte que je n'ai jamais rédigé, je le sais, quand j'ai dit qu'au fond, il y avait des pliures du temps. Et j'avais utilisé le mot pliure, qui avait beaucoup plu à Feraldi, mais en fait, pliure, c'est un concept Bourdieu, de Bourdieu, n'est plus dire. Et au fond, c'est un concept de Bourdieu qui, est en fait, à ma connaissance, vient de Chaunu.
De
Chaunu même, parce que Deleuze l'avait repris, mais le fondateur, celui qui l'a vraiment inventé, c'est celui qui a pensé les anamorphoses de l'espace méditerranéen ou atlantique, et c'est Chaunu. On a tellement oublié de rappeler que Chaunu était un vieil réactionnaire pourri, qu'on a dit qu'il avait oublié qu'il avait inventé quelques trucs formidablement intéressants. Donc, exemple les pliures.
Il y a fort longtemps dans les œuvres de science-fiction.
Ah oui, c'est la science-fiction. Fraîche et convaincue. Justement, la notion de pliure du temps, c'est un concept qui n'en est pas un, mais qui est un outil qui permet de rendre très bien compte, par exemple, du décentrage de l'espace méditerranéen entre le XVIe et le XIXe siècle, et de ses transformations, sous l'influence de l'ouverture atlantique. C'est pour ça que je rends grâce tous les jours à Pierre Chaunu, quand même. Mais nous utilisons tous ces concepts et ces outils, et si on regarde l'anthropologie de la Méditerranée, là on le revoit, et on le voit déjà chez les historiens, quand on prend l'outil classique, devenu classique depuis 40 ans maintenant, qui est celui d'Agulon, la sociabilité, que Jean-Marie connaît mieux que moi, cet outil sociabilité, vous l'appliquez à la Méditerranée, c'est un outil applicable. Pour faire les sociabilités, traiter les sociabilités méditerranéennes, ce dont l'anthropologie de la Méditerranée les rend très bien compte. Donc, je conclue ce premier point du troisième point en disant simplement que certes, c'est un objet, mais c'est un objet qui permet de faire appel à des outils formidablement intéressants. Formidablement intéressants, variés. Je vous en ai donné deux, trois exemples, hétérotopie, synchronie, sociabilité, mais on pourrait en trouver d'autres. Reste, et c'est pour moi l'essentiel, reste que ça nous permet quand même d'arriver au cœur du sujet, de ce qui est pour moi le cœur du sujet. Le cœur du 8 juillet 2006, 11h du matin, hein, par des différences de vue. Aujourd'hui, pour moi, le cœur du sujet, il est où? Il est que l'essentiel, c'est dans la spécificité de l'objet. Et cette spécificité de l'objet, ce sera mon dernier point de votre réflexion, j'ai encore 10 minutes. Cette spécificité de l'objet, puisque tu voulais discuter, donc je me suis dit qu'une heure, ça serait déjà beaucoup, pour une fois qu'on n'est pas pressé par les 25 minutes, tant que je suis assez con pour l'inventer il y a 30 ans. Donc, en l'occurrence, la spécificité de l'objet, c'est d'être un objet territorial. Et c'est donc sur le territoire qu'il faut se poser des questions avec cet évolution. Et je crois que, comme je suis convaincu que l'objet le plus intéressant en sciences humaines depuis un siècle, c'est quand même ce qu'on a écrit sur les territoires, je m'y suis replongé encore là-dessus. Or, qu'est-ce que c'est qui fabrique un territoire et qu'est-ce qui est intéressant dans le territoire? C'est la limite et c'est les confins. C'est la limite et les confins. Je vous renvoie là encore à mon Lévius ou illustré. Limite et confins. Et c'est ça qui est intéressant dans le territoire. Alors ça permet, vous allez le voir tout de suite, je saute, comme selon mon habitude, d'habitude catastrophique, je saute en même temps, en faisant des parenthèses à l'intérieur de ma réflexion. Ça permet, si on rentre dans le détail de l'outil territoire, ça permettra de se débarrasser des oripeaux et insupportables de l'idéologie type mer Méditerranée ou type pire. Parce qu'on n'ose pas le faire, mais bon, on peut oser le faire. On n'est pas nombreux, alors j'ose le faire type Enrico Macias. Parce que pour moi, le modèle type, c'est Enrico Macias. Le pays, mon pays. Ça, c'est terrifiant. Il suffit d'aller voir un concert d'Enrico Macias maintenant pour voir que ça fait des ravages sur le type de population qui l'écoute et qui maintenant l'écoute. Mon épouse écoute Enrico Macias, donc c'est grave. Donc c'est grave, et je reviens à mes limites et aux confins, vous allez voir que je ne suis pas si loin que ça du sujet. Mais c'est qu'en réalité, concrètement, l'intérêt de la démarche, c'est d'essayer de dire la Méditerranée est un territoire qui n'est pas un pays, et la Méditerranée est un territoire qui n'est pas une mer. Et ce qui est essentiel dans la Méditerranée, c'est que c'est un territoire. C'est un territoire et c'est un espace de nature territoriale, je dirais. Je suis de plus en plus précis et concret, et j'espère précis, je vais y arriver. Un espace de nature territoriale limité non pas par une barrière, mais par des confins, au sens de la définition géographique. Un espace de nature territoriale, limité non pas par une barrière, mais par des confins. Alors vous me voyez arriver, du moins j'espère, parce que c'est ça qui intéresse. La Méditerranée n'est pas une mer, c'est un milieu. La Méditerranée n'est pas une mer, c'est une mouvance. La Méditerranée n'est pas une mer, c'est un territoire de type Mittel-Europa. C'est la Mittel-Europa. Le seul point comparable avec la Méditerranée, ce n'est certainement pas la Baltique, ou ce n'est certainement pas les Caraïbes, c'est la Mittel-Europa. Et ça, je me suis plongé toujours dans mon petit Lévis illustré, dans Mittel-Europa, et j'y ai trouvé l'œuvre de M. Gerhard Sander, dont je dois dire que je n'avais jamais entendu parler avant hier soir. Donc Gerhard Sander, S-A-N-D-N-E-R, que je vais me précipiter à lire, mais malheureusement c'est écrit en allemand et je suis sûr que je n'arrive pas à le trouver. Et malheureusement, c'est plus mon père pour me traduire les bouquins d'allemand que je ne comprends pas. Donc 1987, Gerhard Sander écrit un énorme article sur Mittel-Europa, qui a été transformé en livre en 88, et qui est résumé dans... et qui nous donne une clé formidablement intéressante. C'est l'idée type, c'est la Mittel-Europa, c'est une mouvance aux confins, un territoire aux confins un peu limité, ce que M. Sander appelle un horizon, H-O-R-I-Z-O-N-T, horizonte en allemand. Et ça, c'est intéressant. Du coup, on a un nouveau concept formidablement intéressant, qui en plus permet tous les jeux de mots possibles. La Méditerranée en récit... Thierry, tu pourrais t'amuser avec ça. La Méditerranée comme horizon, mais avec un T sic, mais sans faute d'orthographe. Et l'horizon, d'après, vous trouverez donc dans le Lévi-Dussault à la lettre H, horizon, avec T, et où vous aurez une définition de l'horizon, qui est l'idéal type suivant, qui est de dire l'horizon est un espace de nature territoriale dont les marges sont de simples mouvances, sont des confins, limitées par des confins. Or, s'il y a bien un territoire qui est limité par des confins, c'est bien la Méditerranée. C'est même pour ça qu'ici, on a un institut d'études africaines. Ça, c'est un confin méditerranéen. Et si on ne sait pas où commence et où s'arrête la Méditerranée, c'est une question que tu m'avais posée, je crois, un jour dans un couloir, à laquelle j'ai été incapable de répondre et à laquelle j'espère répondre maintenant. C'est simple, finalement. Ça dépend de la façon dont le confin est intégré dans l'espace, dans le territoire ou pas. Donc la Méditerranée a un sens dans certaines... Dans la représentation méditerranéenne existe dans certaines régions, n'existe pas dans d'autres, parce que la culture intègre ou non les confins méditerranéens. Donc cette Méditerranée comme mouvance ou comme milieu, je crois que... Et où les mouvances se déploient d'une façon extrêmement intéressante par contiguïté. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de barrière fixe, il n'y a pas un mur. Il n'y a pas un mur de séparation qui sépare la Méditerranée de la non-Méditerranée. Surtout depuis, on le sait maintenant de façon très précise, depuis que nous ne savons plus où s'arrêtent les... Nous savons en tout cas que la culture de l'olivier ne permet pas de définir la limite de la Méditerranée, qui a été prouvée ici même, c'était au printemps, au colloque sur les maxima et minima glaciaires, par un exposé remarquable de nos collègues de Toulouse, qui montrait très bien que la culture de l'olivier, qu'on retrouve encore dans Civilisation matérielle et Capitalisme du Brodel comme un des exemples de limites, n'est pas une limite, parce qu'elle ne peut pas être considérée comme une limite, de la façon que moi je croyais que le palmier était une limite, alors que le palmier est un arbre qui se retrouve partout.
Je t'interromps un instant. Je me rappelle d'enseignant de l'Institut de géographie dans les années 60, disant déjà cela, que l'olivier n'était pas un bon marqueur, et qu'il lui préférait de loin l'amandier.
Ce que montrait le gars à Toulouse, c'est qu'il n'y avait pas de marqueur, justement. Et c'est peut-être ça qui est intéressant dans la démarche telle que Sander, telle que je la reprends ici, ou dans l'application de l'horizon ici, c'est de dire, bon, il n'y a pas de limite. Il n'y a justement pas de limite, et c'est ça qui est intéressant. C'est
un espace indistinct.
Mais justement, l'amandier, c'est intéressant parce que c'est un arbre où les progressions, etc., sont...
Et où en plus les progressions sont humanisées par définition, parce que ce qui est intéressant c'est l'humanisation là du système. Donc en l'occurrence, on peut faire cet exercice que j'ai pris du côté géographique en disant on a le territoire, on a une mouvance territoriale et on a un horizon qui se caractérise justement par l'absence de limites. On peut le faire, on peut le reprendre à l'envers, c'est ce que j'ai fait là, c'était ce matin, donc j'étais plus clair. On peut le reprendre comme historien. On peut le reprendre comme historien en disant, après tout, on peut faire le même exercice sur les limites chronologiques dans le temps. Et on se rend compte que ça marche, enfin du moins m'a-t-il semblé, exactement de la même façon. Et au fond, on a là affaire à des phases qui sont réalisées. C'est ce que j'avais appelé des figures dans l'exposé que j'avais fait en 2003 ici même, sur l'échelle du monde, qui lui se trouve quand même sur le web. Donc en l'occurrence, c'est l'historien peut faire un peu la même chose que le géographe et faire apparaître des éléments de mesure. La question, c'est sur l'histoire, sur les figures historiques de la Méditerranée. Le problème, c'est la mesure que l'on a, l'échelle que l'on choisit. Parce qu'on a le même problème que les géographes. Alors j'avais, là-dessus, comme je suis un chercheur fouillonné, j'avais essayé, quand on était à Barcelone, de chercher le mot ou le concept qui permet de rendre compte de ce système sans limite et avec des échelles mal définies. J'avais employé le mot idiot de gabarit, j'avais pas trouvé mieux. Et je m'étais fait reprocher cruellement par Myriam Catus le fait de la confusion entre gabarit et paradigme. Bon, elle doit savoir ce qu'elle dit puisqu'elle est chercheur officiel. Moi non. Donc en l'occurrence, je maintiens quand même mon gabarit parce que c'est un gabarit de menuisier que tu sais jamais très bien comment tu vas faire avec. Mais enfin, c'est utile. Donc la Méditerranée, ça veut nous servir de gabarit pour faire fonctionner, pour faire démarrer, bouger les choses, ou analyser les crises et les événements. Voilà en gros où j'en suis. Et donc je conclue en 2 secondes mon cheminement. En disant aujourd'hui, si le cheminement n'est pas complètement absurde, on peut essayer de refermer le compas, de resserrer le compas. On peut essayer de resserrer le compas autour de l'objet, autour d'objets particuliers qui seront des objets méditerranéens. Et je crois que ce qu'on a à faire, c'est à resserrer le compas sur des objets. C'est pour ça que je pense que ton nouveau titre est meilleur que le précédent. Le précédent n'était pas mauvais, mais il est trop théorique, effectivement. Mais en l'occurrence, on peut le resserrer sur des objets. On peut se resserrer sur des objets, et l'objet sur lequel on a travaillé, c'est un objet qui soit spatio-temporel, c'est des objets d'espace-temps. Et c'est là que c'est intéressant, me semble-t-il. Alors c'est sûr que d'un point de vue épistémologique, pour le revoir autrement, je pense que la construction de l'analyse du discours tel qu'on s'y est livré depuis 30 ans, 20 ans, 30 ans, n'a pas été inutile. Elle n'est pas inutile parce qu'elle a finalement illustré je viens d'essayer de le faire là aujourd'hui. Là, au fond, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'appuyer une démarche de géohistorien. Géohistorien, c'est ce à quoi je tiens le plus aujourd'hui. En disant simplement qu'il s'agit d'imposer, ça peut être un moyen, et c'est un peu ce que je voyais, moi, d'intéressant du point de vue épistémologique dans la démarche de Ramsès II, enfin, initié par Ramsès II, si c'est un moyen pour imposer, pour internationaliser une démarche, une analyse réflexive de l'histoire et de la géographie au niveau international, ça, on n'aura pas perdu notre temps. En tout cas, ce qui est sûr, et je finis dessus, c'est que la Méditerranée, dans ces cas-là, c'est je crois bien un horizon, mais en tout cas, c'est un univers. Et ça, c'est intéressant.